Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Paranoir. On aura ensuite trois mangas des éditions Delcourt Tonkam avec la présentation du manga Le Prix du Reste de ma Vie, la présentation du manga L'Homme qui Tua Nobunaga et la présentation du manga La Déchéance d'un Homme. On aura ensuite un petit point, même un gros point sur les sorties manga de la semaine. On continuera à parler culture avec Les Secrets du Saké. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec la naissance de pandas jumeaux au zoo d'Ueno à Tokyo. Et enfin, on finira l'émission avec une news musicale concernant le groupe japonais Braidir qui sera en tournée européenne cet automne. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Mutsu no Hana de Ramwire, et on reviendra juste après pour parler du groupe Paranoir.
Thank you. 対応しきれない弱さがある。かじかむ手で耳を塞いでたら逃げ出そうな私と目が。
Donc c'était Ramwire avec la chanson Mutsu no Anna. On passe maintenant à la présentation du groupe Paranoir, ou qui se prononce d'ailleurs Paranoia, mais du coup ça s'écrit Para, deux petits points noirs, donc Paranoia. C'est un groupe japonais de rock Visual Kei qui a fait ses débuts en 2009 et qui s'est séparé en 2012. Le groupe était sous le label Danger Crew Records et se composait de 4 membres. On avait Akane du groupe D.I.D. au chant, Ranmaru du groupe Blaze Dismess à la guitare, Aizawa Sho du groupe D.I.D. à la basse et Satoshi du groupe Lakko à la guitare. On compte aussi 2 ex-membres, Hiro qui était à la batterie de 2009 à 2010 et Yukino à la batterie de 2010 à 2011. Donc Paranoia est le nouveau groupe de l'ex-chanteur du groupe Julius qui ne se nomme donc plus Tetsu mais donc à présent Akane. Après la sortie des 2 premiers maxi-singles, le batteur Hiro décide de quitter le groupe en août 2010. Il quitte également la scène musicale par manque d'enthousiasme vis-à-vis de la musique. En août 2010, le groupe annonce qu'ils ont un nouveau batteur, il s'agit de Yukino, qui est l'ex-batteur du groupe Vanessa. Ils annoncent également la sortie de leur premier mini-album The Red in the Monochrome, en 2 types pour le 22 décembre, ainsi que 2 maxi-singles pour février et mars 2011. Donc côté discographie, le groupe a sorti donc 3 albums, le premier The Red in the Monochrome qui est sorti le 22 décembre 2010 et le dernier c'est Nihilisme qui est sorti le 4 avril 2012. On a aussi 10 singles, le premier Merciless Sorrow qui est sorti le 28 août 2009 et le dernier c'est Amaryllis Cosmos qui est sorti le 7 décembre 2011. Ils ont également participé à une compilation Explosion Showcase qui est parue en février 2011. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Paranoia. Donc on va commencer avec la chanson Bleadir et on reviendra juste après pour la présentation du manga Le Prix du Reste de ma Vie.
Yeah.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
c'était Paranoia avec la chanson Blendless Maria. On passe maintenant à la présentation du manga Le Prix du Reste de ma Vie, du titre original Jumyo wo Kaito te Morata Ichinen Itsuki Ichimanen de. Alors c'est un shonen de genre drame psychologique romance qui a été écrit par Miyaki Sugaru, dessiné par Taguchi Soichi, avec le chara-design de E9L, et donc tout ça a été pré-publié dans le Shonen Jump Plus. La version japonaise est parue en 2016 aux éditions Shueisha avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 19 février 2020 aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec également 3 tomes. Donc vous pourrez retrouver Le Prix du Reste de ma Vie dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il existe une version alternative en light novel intitulée Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie, qui est donc paru en un tome aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. Toute vie est inestimable et aucune ne vaut plus qu'une autre. Vraiment, dans ce cas, seriez-vous prêt à estimer la valeur de la vôtre ? Donc, Kusunosuki était un enfant plein de rêves et d'ambitions. Devenu un jeune adulte désargenté, il entend alors parler d'une boutique dans laquelle il est possible de revendre son espérance de vie, son temps ou sa santé. Après estimation, il découvre qu'il lui reste 30 ans et 3 mois d'une vie insipide, évaluée à 2 500 €. Kusunoki décide alors de vendre son espérance de vie, à l'exception des 3 derniers mois qu'il passera sous la supervision de Miyagi, une jeune femme chargée de veiller à ce qu'il ne commette rien de répréhensible durant ce laps de temps. Voilà, donc Le Prix du Reste de ma Vie à retrouver en 3 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Girls Bravo de Rebecca, et on reviendra juste après pour parler du manga L'Homme qui tua Nobunaga. Donc c'était Rebecca avec la chanson Girls Bravo. On passe maintenant à la présentation du manga L'homme qui tua Nobunaga. Du titre original Nobunaga wo Koroshita Otoko, Onoji no Ren, alors 431, Nenme no Shinjutsu. Voilà. Alors c'est un seinen de genre action-aventure, drame historique qui a été écrit par Akichi Kenzaburo, dessiné par Todo Yutaka et prépublié dans Young Champions. La version japonaise est parue en 2016 aux éditions Akita Shoten avec un total de 8 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 3 février 2021 aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 3 tomes de sortie. Vous pourrez retrouver L'homme qui tua Nobunaga dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Véritable enquête livresque, ce manga passionnant se penche sur l'énigme la plus marquante de l'histoire du Japon, l'assassinat d'Oda Nobunaga il y a 431 ans. Leader charismatique de légende, officiellement tué par son plus fidèle vassal, l'histoire perpétuée veut que ce meurtre soit un acte commis en solitaire pour usurper le pouvoir du leader. Or, la réalité serait tout autre. Donc, plongé au cœur des derniers mois d'Oda Nobunaga, éminent seigneur de guerre ayant unifié le Japon au XVIe siècle. Laissez-vous porter par l'amitié qui le liait à Yasuke, le tout premier samouraï noir, et découvrez l'histoire qui mena à son assassinat lors de l'incident du Onoji. Après plusieurs siècles, le voile est enfin levé sur les mystères qui planaient sur cet événement historique. Voilà, donc l'homme qui tua Nobunaga a retrouvé pour le moment en 3 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Tempesta de Red Alice, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Donc c'était Red Alice avec la chanson Tempesta. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 30 juin chez Panini avec le volume 4 de Aozora Yel, Un amour en fanfare, la réédition 2021. Et du coup, pour les éditions Panini, il y a plusieurs coffrets qui ressortent avec les volumes 1 et les volumes 2 au prix d'un seul tome. Voilà, donc si vous voulez commencer la série, vous pouvez la commencer en achetant deux tomes pour le prix d'un. Voilà, donc du coup, on aura le volume 4 de Aozora Yel, Un amour en fanfare qui sortira, mais aussi le coffret avec les volumes 1 et 2 de Aozora Yel, Un amour en fanfare, donc la réédition 2021. Pareil, on aura donc le coffret avec les volumes 1 et 2 de Awakoi, ainsi que le volume 3 qui sortira donc tout seul. Le coffret avec les volumes 1 et 2 de Iyukoi, le volume 5 de Koifuru Colorful, vous aurez également donc le coffret avec les volumes 1 et 2. On aura le coffret avec les volumes 1 et 2 des Foudres de l'amour, ainsi que le volume 3 qui sortira donc à part. Et on aura le dernier coffret, les volumes 1 et 2 de Promesses en rose, ainsi que le volume 3 de Promesses en rose donc qui sortira à côté. Ensuite, aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 2 de Ayako, l'enfant de la nuit, le volume 8 de La malédiction de Loki, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 15 de Tanya The Evil. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 1 de Black Mariage, le volume 17 de Black Prince and White Prince, le volume 7 des Aventures de Kirby dans les étoiles, le volume 3 de Splatoon Histoire Poulpe, le volume 12 de Splatoon et le volume 9 de The Legend of Zelda Twilight Princess. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 1 de Fenrir. Aux éditions Meian, le volume 3 de Z-Breaker, l'édition Ultimate. Et aux éditions Pika, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Toilet Bound, Anakukun. Voilà, ça ne sera pas en coffret, par contre, ça sera bien séparé 1 et 2. Ensuite, pour jeudi 1er juillet, on aura aux éditions Komiku le volume 3 de A Safe New World, le volume 6 de Faraway Paladin, le volume 19 de Gift, plus ou moins, le volume 2 du Fossoyeur et le volume 14 de The Unscient Magus Bride. Ensuite, aux éditions Manabooks, on aura le volume 2 de Assassin's Creed Dynasty, le volume 7 de Final Fantasy Lost Stranger, le volume 3 de Persona 4 et le volume 3 de Siren Rebirth. Aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 17 de Beastars, le volume 1 de Beast Complex, le volume 4 de Beyond the Clouds, le volume 8 de City Hunter Rebirth, le volume 5 de Guess What, le volume 1 de l'Éden des Sorcières, le volume 4 des Carnets de l'Apothicaire, le volume 2 de My Hero Academia Team Up Mission, le volume 29 de My Hero Academia et le volume 6 de The Killer Inside. Aux éditions Hachette, on aura la sortie du volume 24 de Naruto et aux éditions Silenium, le volume 1 de Rando. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 2 juillet avec aux éditions Kana, le volume 3 de End, le volume 3 de Chacun ses goûts, le volume 4 de Corps solitaire, le volume 67 de Gintama, le volume 4 de Héroïne malgré moi qui sera le dernier tome de la série, le volume 9 de Irrésistible, le volume 6 de La Voix du Tablier, le volume 9 de Shaman King, le volume 1 de Shaman King's Superstar, le volume 5 de Shy et le volume 7 de Un petit ami trop parfait. Aux éditions Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 5 et 6 de Birdman, le volume 8 du Bateau de Thésée et le volume 4 de Natsuko no Sake. Aux éditions Noef Crafts, on aura la sortie du volume 1 du Grimoire Écarlate. Aux éditions Akata, le volume 6 des Chroniques d'Asphareo et le volume 6 de Nos cœurs évanescents. Et enfin, la dernière sortie de la semaine, ça sera chez Ankama avec le volume 4 de Ogresse. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Shinshoku de Rivière et on viendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. We'll be right back.
けないな
Rivière avec la chanson Shinsoku. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké. Donc je m'inspire toujours du livre qui est paru aux éditions Isekinicho et qui a été écrit par Siméon Mollard du même nom, donc les secrets du saké. Et on va donc parler du secret numéro 2, à savoir à quand remonte la création du saké. Donc l'histoire du saké est profondément liée à celle du Japon. Les premiers alcools produits aux alentours de moins 4000 avant Jésus-Christ étaient obtenus à partir de la fermentation naturelle de fruits sauvages. Donc il faut attendre 250 après Jésus-Christ pour trouver les premières traces écrites sur le saké japonais issues de la fermentation du riz. Jusqu'au 9e siècle, le saké est réservé à la cour impériale. Par la suite, le pouvoir religieux prendra peu à peu le dessus et les temples produiront eux-mêmes du saké à des fins commerciales lors de la période Kamakura Muromachi, donc qui va de 1192 à 1573, améliorant la production grâce à des techniques encore utilisées de nos jours. En 1603, le transfert de la capitale de Kyoto à Edo, donc aujourd'hui appelée Tokyo, a pour conséquence de faire évoluer les techniques de conservation et les moyens de transport du saké. Celui-ci se répand alors dans tout le pays, et des sakagura, donc des brasseries à saké, voient le jour dans différentes régions du Japon. On en dénombre 27 000 à la fin du XVIIe siècle. Le 19e et le 20e siècle représentent un nouveau tournant dans le monde du saké japonais. Les évolutions technologiques, avec notamment l'invention en 1933 de la machine moderne à polir le riz, permettent de créer des sakés aromatiques, conquérant un nouveau public. Si le nombre des brasseries connaît une baisse quasi constante depuis les années 1600, la Seconde Guerre mondiale l'accentue drastiquement. En 1945, il ne reste plus que 4000 sakagura. Le saké est à l'image du pays, exsangue. Il faudra donc attendre les années 1970 pour que le saké de qualité réapparaisse. Donc 30 ans de production de faible qualité ont permis à d'autres alcools, tels que la bière ou le vin, de le supplanter dans le cœur des Japonais. Mais le futur s'annonce plus clément pour les 1200 brasseries actuelles. Depuis la fin du XXe siècle, le saké se développe à l'international et des sakagura se créent dans le monde entier. Fort de cette nouvelle image d'alcool branché, le saké se réinvente au Japon. Gageons qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, donc on continuera avec les secrets du saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Just Matt Payne du groupe Rentrer en Soi. Et on viendra juste après pour la présentation du manga La déchéance d'un homme. C'était Rentrer en Soi avec la chanson Just Matt Payne. On passe maintenant à la présentation du manga La déchéance d'un homme, du titre original Ningen Shikaku. Alors c'est un seinen de genre drame-horreur qui qui a été écrit par Dazai Osamu, dessiné par Ito Junji et prépublié dans le Big Comic Original. La version japonaise est parue en 2017 aux éditions Shogakukan avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 17 mars 2021 aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver La déchéance d'un homme dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 16 ans et plus. Et il existe un livre à l'origine de cette adaptation, écrit par Dazai Osamu et qui est paru au Japon en 1948, puis en France aux éditions Gallimard en 1962. On a aussi une autre adaptation en manga, Je ne suis pas un homme, qui a donc été écrit par Furuya Usamaru et qui est paru donc en 2011 en 2 tomes aux éditions Casterman. Et enfin, on a une adaptation en film de 2h14, The Fallen Angel, qui est sorti en 2010 au Japon. Ce manga est l'adaptation éponyme du best-seller d'Osamu Dazai, l'un des plus célèbres romans de la littérature japonaise contemporaine. Junji Ito déploie le génie de la mise en scène et de l'angoisse qu'on lui connaît dans cette adaptation strictement fidèle. Les 3 tomes correspondent aux 3 arcs du roman d'origine. Donc, fils d'un riche député, Yozo Oba ne connaît pas le bonheur et ne comprend pas celui des autres. Obsédé par le regard qu'on peut porter sur lui, il finit par trouver la solution pour tromper ses pairs sur le désespoir qui l'habite, devenir un bouffon. L'illusion est parfaite, ses pitreries sont irrésistibles et le succès immédiat auprès de ses camarades. Seulement voilà, le rebut de la classe, Takeichi, voit clair en son jeu et ça, Yozo ne le supporte pas. Takeichi en paiera le prix. Convoité de toutes parts, la beauté et le charisme de Yozo captivent. Il collectionne les amours malheureuses, évoluant tantôt dans le milieu du militantiste marxisme, tantôt dans les lupanars, toujours hanté par les visions de ses victimes. Donc à savoir sur le scénariste et dessinateur, Junji Ito est né le 31 juillet 1963 au Japon, où il réside encore maintenant. Il commence à dessiner dès son plus jeune âge, fortement influencé par les œuvres de Kazuo Umezu, l'un des premiers mangaka d'horreur. Il se dirige très vite vers ce secteur pour en devenir l'un des maîtres aujourd'hui. Il publie son premier manga en 1987, Tomie, qui est paru en 2012 aux éditions Delcourt Tonkam, pour lequel il remporte une mention spéciale au prix Kazuo Umezu, présidé par son idole. Il continue alors sur sa lancée en publiant Spirale, qui est paru en 2011 aux éditions Delcourt Tonkam, au succès retentissant dans l'un des plus grands magazines du genre, le Big Comic Spirits, à partir de 1998. Parmi ses œuvres les plus notables figurent Gyo, qui est paru en 2021 aux éditions Delcourt Tonkam, et Uzumaki. Plusieurs de ses mangas ont été adaptés pour le cinéma et la télévision. Voilà, donc La déchéance d'un homme à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kotobani Dekinai de Rice, et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
This I can't forget 明日はごめんねって言えたらいいな Rainy day いつまでも変わらないよ うまく言葉にできないだけ This I can't forget 明日は大好きだよって言えたらいいな 僕がいつか年をとって永遠に眠るその日までそばにいてね繋いだ手のぬくもりは嘘じゃないよって聞かせて Sunny day 照れくさくて見つめられ This I can't forget 明日はごめんねって言えたらいいな Rainy day いつまでも可愛くいてね 笑顔も泣き顔も全部 This I can't forget 明日は大好きだよって 君がいつか年をとって永遠に眠るその日までそばに て素直になれやしないよ、こんなにそばにいるのに。 This I can't forget 明日はごめんねって言えたらいいな。
Donc c'était Kotobani Dekinai de Rice. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Un mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, la capitale japonaise a une autre raison de se réjouir. La femelle panda géant Shin Shin a donné naissance mercredi dernier à des jumeaux au zoo d'Ueno, 4 ans après sa dernière grossesse. Donc selon le site internet du zoo, les deux pandas sont nés à 1h30 d'intervalle, respectivement à 1h03 et 2h32, heure locale. Leur sexe et leur nom n'ont pas encore été révélés. Tout le personnel travaille ensemble pour observer et protéger la mère panda géante et ses enfants, a déclaré le zoo dans un communiqué. Et toujours selon le communiqué, l'un des jumeaux pèse 124 grammes, tandis que le poids de l'autre n'a pas encore été annoncé. À la naissance, les bébés pandas font à peu près la taille d'une main humaine adulte. Shin Shin est née le 3 juillet 2005 en Chine, au centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, et elle est arrivée au zoo d'Ueno il y a 10 ans, avec son partenaire Riri. Le couple est également parent de Shang Shang, une femelle panda qui est née en juin 2017. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Stand By Me de Rika Imenogi, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Donc c'était Rika Imenogi avec la chanson Stand By Me. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Pour la rouverture des salles de concert en France, il sera possible de profiter d'une date du groupe de métal féminin Braidir en octobre 2021. C'est avec l'aide du tourneur Orion Live que le groupe se produira pour sa tournée Into the Dark Forever Tour 2021 aux dates suivantes en Europe. Alors, on aura donc le 28 septembre 2021 au Nalen à Stockholm en Suède, le 30 septembre au Club Nuke à Berlin en Allemagne, le 1er octobre au Melkweg à Amsterdam aux Pays-Bas, le 2 octobre au Botanique à Bruxelles en Belgique, ensuite le 3 octobre ça sera à la Boule Noire à Paris donc en France, le 6 octobre au Underworld à Londres en Angleterre, le 7 octobre au Castle and Falcon à Birmingham en Angleterre, le 9 octobre au Nice and Sleazy à Glasgow en Écosse et enfin la dernière date pour l'Europe, ça sera le 10 octobre 2021 au Night and Day Café à Manchester en Angleterre. Voilà, donc si vous avez, vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir un peu ce que font le groupe Braidir, qui sera, donc je le rappelle, le 3 octobre en concert à la Boule Noire à Paris, on va s'écouter leur chanson Scream pour finir l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain pour une nouvelle émission Asian Bubble de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt !